Chapitre 10. Pierre était depuis un mois sorti du collège. Il avait plu pendant la nuit. La terre, longtemps assoiffée, avait bu, s'était amollie et gonflée. De tous côtés, autour du fief Sauvin, on faisait les premiers labours. La lente chanson des bœufs, sifflée ou chantée, volait sur les collines. « Ohé, les vallées, ohé !» Il était près de midi. Jacques et son père rentraient à la ferme. Devant eux, le harnais allait seul, la huasse en tête, puis six grands bœufs dont chaque pas plissait la peau luisante autour des épaules. Il traînait une herse renversée, les dents en l'air, encore boueuses, qui sautait sur les bosses gazonnées du chemin. Quand on fut en vue de la genivière, « Sais-tu où il est ?» demanda le métayer. « Ça n'est pas ordinaire qu'il ait emmené la roussette, un jour de labour, sans ma permission !» Il disait cela d'un ton de colère, les sourcils froncés, car c'était la première fois qu'un fils prenait une telle liberté à la genivière. Jacques détourna la tête du côté de la haie pour que son père ne vît pas son embarras et répondit négligemment. « Est-ce que je sais, moi ?» Il mentait. Quand il s'était levé, à l'aube, il avait trouvé Pierre à l'écurie, étriant la roussette qui ne bougeait pas, la tête plongée jusqu'au-dessus des naseaux dans une augée d'avoine. Le bridon, à rosette rouge, pendait à un pieu voisin. « Où vas-tu ? » avait dit Jacques. « En forêt, il y a chasse aujourd'hui. »« En forêt ? Et tu emmènes la roussette ? Le père ne va pas être content. » Il en a besoin pour labourer la grande musse. A-t-elle la huasse à la place, mon Jacques ? Avait répondu Pierre en tapant sur l'épaule de son frère. Je ne serai pas longtemps ici, vois-tu, et je veux me passer cette fantaisie-là qui me tente depuis 10 ans. En disant cela, il avait jeté sur le dos de la roussette une couverture en guise de selle, avait sanglé la jument, et puis, sans étrier, un morceau de pain dans sa poche, il était parti pour la forêt de l'Épau. La chose n'était pas rare dans cette Vendée au tempérament égalitaire et hardi. Ceux qui ont chassé dans les forêts de Vezin, de l'Épau, de la Foucaudière, ont souvent rencontré, au carrefour des routes, sur les landes, quand sonnait le débuché, des gars en blouse ou en veste ronde, montés sur des chevaux du pays et coupant au plus court au devant des voitures et des chasseurs en habits rouges. Les grands-pères de ces fils de métayers ont été compagnons de nobles au temps de la Grande Guerre. Ils montaient avec un mauvais bridon ou une corde serrant la mâchoire de leur bête, côte à côte avec les officiers à écharpe blanche. Ils vivaient de la même vie et mouraient souvent de la même mort. Cela crée des droits et des traditions. Les veneurs le savent, les gars mieux encore. Mais ce qui n'était pas commun, c'était de rencontrer des chevaux comme la roussette. Elle suivait la chasse, non pas immédiatement derrière les chiens, mais à quelques 100 mètres à gauche, obstinée dans cette direction parallèle, toujours au même trot allongé, sans un temps de galop. Pendant plus d'une heure, employée à relever un défaut, la roussette et son cavalier avaient disparu. Ils venaient de réapparaître tout à coup au milieu d'une taille, au moment où l'animal de chasse, un brocard enfin relancé, filait droit pour gagner la lisière de la forêt de l'Épau et de là débucher vers celle de la Foucaudière. Le gros des chasseurs fut bientôt égaré, fourbu ou distancé, et 2 personnes seulement continuèrent à galoper derrière les chiens. Le piqueur Leprou, tout rond sur sa jument maigre, la bouche en cœur et la joue enflée, prêt à sonner de la trompe, et la plus avenante, la plus enragée des chasseresses, Madeleine Laubrier. Elle était ravissante dans son amazone courte, ses cheveux bruns tordus sous le petit chapeau de soie, le regard animé, la joue rose, tout au plaisir de la course et de la poursuite. C'en est un si grand de courir ainsi, rapide, à travers le vent qui cingle le visage, de se sentir emporté par une force intelligente, obéissante, dont une pression de doigts change l'allure ou la route. Un flot de sensations fortes, l'orgueil d'être maître, l'ivresse de l'espace, une sorte de volupté du danger, la passion primitive du sang, cette vieille férocité que nous retenons d'ordinaire, nous remue âprement. Et comme l'air emplit joyeusement la poitrine, comme il va l'équipage de la Landehue. C'est une vision qui passe, c'est une fanfare de voix qui court. Toute la forêt est en éveil. Madeleine Lobrier s'amuse royalement. Elle est chasseresse de race. Le vieux piqueur qui la couve du regard multiplie pour elle ses bien-allées. Et les notes s'éparpillent, sonores, à travers les bois mouillés, jetant une épouvante de plus au cœur du chevreuil, pauvre bête effarée, qui risque un dernier effort pour sa vie et débuche en plaine. « Il sera bientôt sur ses fins, n'est-ce pas, le prou ?» dit-elle en galopant. « Avant 20 minutes, au train dont nos chiens le mènent, mademoiselle. Regardez, il tiendrait dans la main. » Les chiens chassaient à vue, en effet, ramassés, faisant une tache mouvante sur les guérets et sur les chaumes. Mademoiselle Lobrier, si passionnée qu'elle fût pour la chasse, avait cependant remarqué ce cavalier dont la jument tenait tête à la sienne, toujours à distance et de la même allure. Il lui avait semblé même qu'il regardait volontiers de son côté. Du moins l'avait-elle induit de certains mouvements de retraite respectueuse. Car cet étrange chasseur, chaque fois qu'elle tournait la tête, se penchait sur la crinière de sa bête et piquait comme pour fuir. Aussi, après une course folle qui les avait menés dans les premières tailles de la Foucaudière, ne l'apercevant plus, elle dit au piqueur « Décidément, nous avons lassé notre compagnon de route. Savez-vous qui c'était ?»« La jument, je l'ai bien reconnue, mademoiselle, c'est la Roussette. Mais pour le gars, je ne saurais le dire. » Il ajouta un moment après d'un air entendu. Une bonne petite bête, pourtant, à la carriole. Le père Leprou confondait presque avec son propre honneur l'honneur de l'écurie de la Landehue. Cependant, un quart d'heure plus tard, lorsqu'il porta sa trompe à ses lèvres pour sonner l'alali, il arrivait second. Pierre Noëlé était déjà là, sa veste noire déchirée par les branches, à cheval sur la Roussette qui avait repris son attitude favorite. Une patte de derrière, à demi relevée, la tête basse et l'air fourbu. À ses pieds, les chiens entouraient le chevreuil qui, à bout de force, s'était rasé le long d'un buisson de ronces. Le pauvre animal, épuisé de souffle et le sang tourné, ne remuait même plus quand les crocs des limiers entamaient sa chair. Un petit bêlement criait seulement pitié, la langue rose pendait, l'œil mourant, à demi renversé. Mademoiselle Lobrier apparut à son tour, considéra cette bête agonisante, sans qu'aucune émotion vînt troubler son sourire de triomphe, refit les plis de sa jupe, flatta de la main le cou de sa jument et regardant enfin Pierre Noëlé. « Bravo, Pierre » dit-elle, « premier partout !» Pour la première fois, elle lui parlait sans cette nuance de hauteur qui blessait Pierre si vivement. Il le sentit et cela lui donna du courage pour répondre. « Un simple hasard, mademoiselle. C'est ma première chasse et vraisemblablement ma dernière. »« Vous avez une bête parfaite. Me la vendriez-vous à présent ? » demanda-t-elle en souriant. « Certes oui, mademoiselle, s'il ne dépendait que de moi. » La conversation allait continuer quand une voix cria. « Ah non, par exemple, elle est bonne celle-là !» En même temps, débouché d'une allée, sur un pur sang qui boitait très bas, un jeune homme athlétique, en habit rouge, gilet bleu à pois, culotte blanche serrée au-dessous du genou par deux boucles, bottes à revers, le chapeau de soie posé en arrière et rattaché au col de l'habit par un petit ruban bleu. Il riait à gorge déployée, avec un mouvement de tête de haut en bas qui faisait danser ses moustaches brunes et saillir la cravate blanche qu'ornait la traditionnelle dent de serre montée en or. « Non, vrai, elle est bonne, celle-là. Je ne m'attendais pas à rencontrer ce petit Noëlé à un alali. » Pierre devint tout rouge. « Dans ce pays-ci, dit-il vivement, la chasse est pour tout le monde. Moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir, Pontual. » Il insista sur ce tutoiement final, sachant bien qu'il ne serait pas du goût de son ancien camarade. « Je vous croyais à chanter vos Oremus, » répliqua l'autre. « Pas encore, mon cousin, » interrompit Mademoiselle Lobrier. « Pierre Noëlé est encore en vacances, et je trouve qu'il a fort bien fait de suivre la chasse, puisque cela lui plaisait. Vous arrivez bon troisième, mon pauvre Jules, avec un cheval boiteux, et cela vous vexe. « Moi, allons donc. »« Mais oui, vous, » dit-elle en se cambrant, « je vous connais bien, cela vous vexe. » Une demi-douzaine d'habits rouges surgirent de la taille voisine, le piqueur mit pied à terre pour la curée, et Pierre Noëlé, qui ne se souciait ni de prolonger le dialogue avec Jules de Pontual, ni d'assister au dépeçage du brocart, profita de l'incident pour partir. Il salua Mademoiselle Lobrier, fit faire demi-tour à la roussette et s'éloigna au petit trot par les allées vertes. La fière Madeleine lui avait souri, elle l'avait défendu même. Cela l'étonnait et le charmait. Le premier partout. Qu'importaient après cela les dédains d'un Pontual ? Par une pente naturelle à toute rêverie humaine, son esprit glissa rapidement vers le passé, la source divine où l'homme puise de si bonheur. Quand il était enfant et que les demoiselles de la Landehue étaient toutes petites aussi, il avait déjà pour elles une admiration craintive. Madeleine, surtout, l'intimidait avec son air de princesse. Ses moindres paroles lui semblaient des ordres souverains. À cette époque, Mademoiselle Lobrier arrivait dès le mois d'avril à la Landehue. Que de jours passés à dénicher pour elle des nids, à explorer les prés où poussent le coucou pelote, le narcisse, la jacinthe sauvage et cette petite renoncule lit de vin dont les gerbes mélancoliques plaisaient à Madame Lobrier. Sitôt qu'elles apercevaient le gars Pierre revenant de la maraude et le pli de son sarrau relevé enfermant le butin, Madeleine et Marthe échappaient à leur bonne. « Qu'avez-vous aujourd'hui, Pierre ? Des jets ? Des pies ? C'est méchant, les pies. Non, des étourneaux. Oh, les jolis. Où est la cage de l'année dernière? Vous devez savoir, Pierre. » Il savait toujours où était la cage de l'année dernière. On enfermait les pauvres bêtes. Pendant 3 jours, Mademoiselle Lobrier les soignait trop bien. Le quatrième, les pensionnaires faisaient triste mine. À la fin de la semaine, Pierre creusait la tombe au pied d'un arbre. Il y avait plaisir aussi, au temps de la fenaison, à voir courir entre les meules de foin nouveaux, ses petits tabliers roses et ses cheveux au vent. Madeleine courait si bien. Elle aimait déjà la chasse. N'avait-elle pas, une fois, attelé Pierre à une charrette à bras, où elle trônait, en robe à fleurs, un fouet en rubané à la main ? « Je suis Diane, vous êtes le cheval, voici les biches, au galop !» « Allons, plus vite, à fond de train !» Et les moutons épouvantés se débandaient à travers le pré, franchissaient les haies, et elle riait d'un rire clair comme un chant de merle. Temps lointain. Quand le cavalier se lève, la monture flâne. Le trot de la roussette s'était insensiblement changé en un pas berçant. Le soleil déclinait, et l'ombre des souches barrait le chemin de part en part lorsqu'il entra dans la cour de la ferme. Le métayer l'attendait. Il était debout à la porte de l'écurie, les bras croisés. Pierre descendit de cheval tout près de lui. Il avait encore des feuilles d'arbre sur son chapeau. « Tu reviens de la forêt ? » dit le père. « Oui. Depuis quand prend-on les chevaux sans ma permission ?» Pierre essaya d'ouvrir la porte. Le métayer la ferma d'un coup de poing. « Depuis quand ? » répéta-t-il d'une voix tonnante. « J'avais cru, balbutia le jeune homme, que pour la première fois... »« Justement, il faut que ça soit la dernière, mon garçon. Quand je serai mort, tu pourras disposer de mon bien. D'ici là, je veux rester le maître, tu entends ?» Puis, saisissant la bride que tenait son fils, il ajouta. « Laisse-moi la roussette !» Les messieurs qui chassent ne soignent pas leurs chevaux. Il haussa les épaules et entra dans l'écurie, tirant la bête après lui. Pierre, humilié, irrité, n'osa pourtant ni résister ni répondre tout haut. Il tourna sur ses talons et murmura, comme s'il se parlait à lui-même, « Je suis de trop ici à ce que je vois. Soyez tranquille, mon père, vous n'aurez pas besoin de me le redire. »